Ce sont des choses dont on a très peu parlé dans la première partie du séminaire. Et je voudrais juste un peu mettre les choses au point pour que ce soit bien clair et qu'on sache un peu plus précisément ce qu'on veut faire, ce qui n'est pas toujours tout à fait clair d'ailleurs. Et peut-être que la discussion qu'il y aura après, qui est l'essentiel de cette réunion en fait, permettra de déterminer quelques pistes ou quelques orientations. On parle d'exil. Alors, je veux préciser que c'est évidemment une mauvaise traduction de la galoute, parce que, comme vous savez certainement, traditionnellement, on compte quatre exils. Et le troisième exil, qui est appelé l'exil grec, est un exil, enfin, c'est un drôle d'exil parce qu'on est sur la terre d'Israël, on est avec le Beth Amikdash, et ça s'appelle un exil. Donc ça ne correspond probablement pas à la définition française du mot exil, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que les exils ne sont pas du tout obligatoirement liés à un déplacement de population, une population qui n'est pas sur la terre d'Israël. Pas du tout obligatoirement. Deuxièmement, il y a eu justement une période considérée comme un début d'exil qui était l'occupation romaine. L'occupation romaine était au début une occupation qui n'était pas tellement méchante, si on peut parler comme ça. Ça s'est vraiment gâté qu'après la révolte de Bar Corba. Jusque-là, c'était encore acceptable. Et pendant cette occupation romaine, les grands maîtres, parmi les plus grands, sont allés négocier avec les Romains. Un des grands problèmes qu'on a tout au long de l'exil, c'est qu'en fait, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie. Donc quand on parle d'une politique juive en exil, on va voir que peut-être que, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une politique, ou plus exactement, la partie politique est plutôt l'organisation de la société juive en elle-même, et pas tellement les relations des juifs avec les non-juifs, avec les peuples chez lesquels ils sont en exil. À l'époque de cette occupation romaine, quand nos maîtres allaient discuter avec les Romains, pourquoi il fallait aller discuter ? Parce que chaque fois qu'il y avait des décrets que nous on appelait antisémites, anti-juifs, etc., il fallait aller essayer de rapporter, faire en sorte que ces décrets ne nous causent pas trop de problèmes. Et ça, c'est, si vous voulez, quelque chose qui est une constante, en fait, dans l'histoire juive. Quand j'ai entendu qu'il était question d'interdire la Shrita en Pologne, je me suis dit, ah, ça y est, il recommence. J'ai pensé, les Polonais, ils menacent d'interdire la Shrita en Pologne, les Juifs vont venir, ils vont payer, et puis on va pas interdire. Je ne suis pas sûr du tout que ce ne soit pas le projet polonais. C'était l'habitude, en Pologne, en Russie, en d'autres endroits aussi. On prenait les décrets simplement pour que les Juifs viennent et qu'ils paient. Alors, nos maîtres, quand ils allaient négocier à Rome, en fait, l'Agmara rapporte toujours qu'ils s'inspiraient d'un texte qui est dans la paracha de Vaishlach. C'est un texte qui nous dit comment Yaakov Avinu s'est préparé à affronter Esav. Yaakov a fait ce qu'il fallait pour devoir affronter Esav. Bon, on ne va pas discuter maintenant s'il avait raison ou pas, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, de facto, maintenant, il allait se trouver affronter Esav. Il ne savait pas du tout dans quel état d'esprit était Esav. Je vous rappelle que Yaakov avait dû fuir la maison paternelle parce que son frère, Esav, son jumeau, enfin faux jumeau, mais jumeau, avait l'intention de le tuer. Et donc, il a dû fuir sur le conseil de sa mère, en fait, avec l'accord de son père. Il est parti, comme tout le monde sait, il est allé chez Laban, et c'est là-bas qu'il a trouvé les deux fameuses épouses avec lesquelles il a construit le peuple juif, en fait. Mais donc, il est parti parce que Ésav voulait le tuer. Donc, il ne sait pas dans quel état d'esprit est Ésav. Et donc, il se prépare, nous disent nos maîtres, il se prépare, après la Torah, à trois choses. Il se prépare, le cas échéant, à faire la guerre. Il se prépare par la prière. Et il se prépare par des cadeaux, c'est-à-dire il va essayer d'amadouer Ésav. Bon, et puis, ce modèle-là est le modèle qui inspire les Chachamim quand ils vont aller négocier avec les Romains. Mais évidemment, ils ne peuvent pas faire la guerre, on n'a pas les moyens de faire la guerre. La prière, évidemment, c'est toujours possible. Concrètement, en dehors de la prière, ils vont aller et ils vont essayer d'acheter, de graisser la patte, je ne sais pas, utiliser les expressions que vous voulez, aux Romains pour obtenir que les décrets romains qui étaient défavorables aux Juifs, en fait, que ces décrets soient rapportés, améliorés, adoucis, etc. Et donc, cette façon de faire, de s'inspirer de l'enseignement de Yaakov, enseignement de la Torah, qui n'est pas exactement les circonstances dans lesquelles on est, mais eux, ils ont décidé de s'inspirer de cela, même si les circonstances avaient changé par rapport aux circonstances de Yaakov. Et c'est resté, en fait, une constante. Partout dans l'histoire, les Israéliens ont essayé de se débrouiller avec leurs hôtes, entre guillemets, de se débrouiller en achetant, en payant. C'était en France, c'était en Angleterre, partout. Ça a toujours été comme ça. Et je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'en Pologne, il n'y ait pas eu des Juifs américains qui aient payé pour que le fameux décret contre la Shrita en Pologne ne soit pas effectivement mis en œuvre. On ne crie pas ça sur les toits. Et donc, si vous voulez, c'est un peu décevant si on s'attend à avoir une politique très construite par rapport aux politiques juives en exil. C'est un peu court, peut-être, de dire, voilà, l'essentiel, ça consistait à obtenir qu'ils nous fassent le moins de mal possible. C'était ça, semble-t-il, les relations. Alors, c'est prendre modèle sur Yaakov. Bon, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait. Yaakov lui-même, comme vous savez, il a compris qu'il avait l'obligation de construire le peuple juif, en fait. Et à la fin de sa vie, quand il a vu, il a mis ses enfants étaient autour de son lit de mort, en fait. Il a regardé les choses et il a pensé qu'il avait raté. Je n'ai pas réussi. Pourquoi ? Parce que j'étais censé construire un peuple, et voilà que j'ai devant moi 12 peuples. Et ce sont ses enfants qui lui ont dit, qui n'avaient pas à se faire du souci, lui ont dit ce fameux Shema Israël. Ils s'adressent ici à leur père, qui s'appelle Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est-à-dire que c'est vrai, nous sommes 12 peuples, mais nous avons en commun nous avons en commun cette émouna, cette confiance en Hachem et en le fait que Hachem est un. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire vraiment un? Bon. Et donc, quelque part, Yaakov a été rassuré, si on peut parler comme ça. Maintenant, cette structure, la façon dont Yaakov a organisé ses 12 fils autour de lui, en fait, il a organisé les choses de telle sorte qu'il y ait 4 fois 3 des fils. Dans les 4 directions cardinales, Il y avait trois fils, donc quatre légues. Et cette façon-là d'organiser les fils de Jacob, qui s'appellent par la suite les tribus, qui sont les... Eh bien, c'est la façon dont on a organisé le campement des Bnei Israël dans le désert, autour, non plus du lit de mort de Jacob, mais autour du Mishkan, qui est autour du tabernacle, c'est-à-dire le temple en kitz que les Bnei Israël ont construit et qu'ils ont transporté dans toute leur pérégrination. Et donc, la Torah, elle prend beaucoup de temps dans le détail pour nous expliquer exactement comment étaient ces quatre fois trois tribus, combien il y avait dans chaque tribu, etc. Et on se demande, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Donc, en vérité, en quoi est-ce que ça nous intéresse de savoir comment ils étaient situés autour du Mishkan? Qu'est-ce qu'on a? Ça nous enseigne rien du tout. Et donc, on se demande à quoi ça sert que ça figure dans la Torah et qu'on l'étudie. Cette question-là, on peut la poser, par exemple, au sujet de la description très, très, très détaillée de ce fameux Mishkan, de ce fameux temple portatif. On n'aura jamais l'occasion de construire un temple sur ce modèle-là. Quand Shlomo a construit le premier Beth Amikdash, le Beth Amikdash qu'on a construit par la suite, le second, le troisième, jamais on prend ce modèle-là. Et pourtant, la Torah, elle est qui d'ordinaire est extrêmement concise, elle est très prolixe sur cette construction. À quoi ça sert? On ne sait pas. Bon, concrètement, ça ne sert à rien. Concrètement, on n'aura jamais l'occasion d'utiliser ce texte-là comme modèle. En fait, je voudrais peut-être, à cette occasion, faire une remarque qui est aussi importante. C'est que vous savez probablement qu'il y a dans la Torah une importance qui est accordée au premier-né. Le premier-né, c'est celui qui a ouvert les voies basses. Et que ce soit au niveau des humains ou au niveau des animaux, le premier-né a une importance tout à fait spéciale. Et initialement, donc, le fils aîné de Jacob, Reuven, devait avoir ce statut particulier, mais il n'avait pas seulement le fait qu'il était l'aîné, il devait être à la fois roi, à la fois grand prêtre, et à la fois avoir la fameuse double part qu'on donne à l'aîné. Je vais expliquer ensuite pourquoi. Et Jacob a privé Reuven de tout ça parce qu'il pensait que Reuven était un danger public. Si on lui donnait ce pouvoir-là, comme il était trop impulsif, il risquait de causer beaucoup de dommages. Et donc, il lui a enlevé cette prérogative, en fait. Alors, on entend ici qu'au départ, il n'y avait pas séparation des pouvoirs. D'accord ? C'est-à-dire les deux grands pouvoirs, la royauté et le Kohen Gadol, la grande prêtrise, c'était la même personne. Mais ensuite, quand Jacob l'a enlevé à Reuven, il n'a pas tout donné à Yehuda, par exemple. Il a donné la royauté à Yehuda, il a donné la prêtrise à Lévi, et il a donné la double part à Yosef. Donc, théoriquement, il y a confusion, enfin, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Concrètement, il y a séparation des pouvoirs. Ça se répète avec Moshe Rabbeinu. Moshe aussi devait être à la fois Kohen Gadol et roi. Le problème de la double part, c'est autre chose. Seulement, il s'est disqualifié parce que quand Hachem l'a envoyé pour libérer les Bnei Israël, il a exprimé sa réticence. Il ne voulait pas marcher sur les plates-bandes de son grand frère Aaron, entre autres. Et Hachem l'a sanctionné. Il lui a dit, bon, ben, ce ne sera pas toi le Kohen Gadol, ce sera Aaron. Et donc, de nouveau, la théorie, c'est le le premier-né, en fait, où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, concrètement, séparation des pouvoirs. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse qu'est-ce que nous donnent ces éléments de théorie sur la réflexion de la structure du peuple. Qu'est-ce que nous donnent ces éléments de théorie sur l'organisation des tribus quand, dans le désert, effectivement, on nous dit comment ils étaient organisés, on nous dit comment, lorsqu'il fallait se mettre en mouvement, comment on ouvrait le cercle et de quelle manière on circulait, on transformait le cercle en ligne, pas obligatoirement droite, mais bon. Et puis ensuite, quand les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël, on a bien réparti la terre d'Israël entre les différentes tribus, mais pas du tout organisé de la même manière. Il n'y avait pas cette proximité de cette tribu avec celle-là qui compense effectivement. Nos maîtres expliquent à chaque fois pourquoi il faut celui-là, etc., que c'est des raisons militaires, ou bien le nombre de personnes de chaque tribu, etc. Mais ensuite, sur la terre d'Israël, on garde une structure tribale, mais plus du tout la structure telle qu'elle a été donnée dans la Torah. Donc, à quoi sert cette structure donnée dans la Torah ? Par contre, la structure tribale, elle persiste, elle va continuer. Cette structure tribale, elle va continuer. Il n'y aura pas de... À l'époque de ce qu'on appelle les juges, c'est-à-dire la période intermédiaire entre Yoshua qui a fait entrer les Bnei Israël sur la terre d'Israël et les rois, si vous voulez, Shaul David, c'est plus connu. D'accord ? Pendant cette période-là, il n'y a pas d'unité. Il y a des alliances entre certaines tribus pour se défendre en général contre les Philistins, mais on n'a pas d'unité. Il n'y a pas du tout une mobilisation de tout le monde quand il y a une attaque. C'est les tribus qui sont particulièrement visées par ceci ou par cela, qui se regroupent, qui se prennent un chef militaire. Et quand le chef militaire a été un bon chef militaire, on essaie d'en faire un chef civil. En général, c'est un désastre. Et ça revient de façon circulaire, en fait. Jusqu'à une forme d'unité. L'unité, elle commence peut-être avec Elkana, le père de Shmuel, du prophète Shmuel, et surtout avec Shmuel lui-même, avec le prophète Shmuel, qui est à la fois un des juges, lui il est quasiment roi. Il est d'une royauté un peu analogue à celle de Moshe, qui était aussi roi, mais des rois sans cour, sans tout. Il n'y avait pas les horse guards, personne, rien du tout. C'est tout. Il était roi et c'est tout. Mais c'était donc l'autorité suprême, et d'une certaine manière, chez Shmuel, il y a aussi des ambiguïtés sur quel pouvoir exactement est le sien. Et c'est à l'époque de Shmuel que les Bnei Israël ont demandé un roi, et Shmuel leur a dit, mais pourquoi vous avez besoin d'un roi ? Moi, je suis le roi. Et il s'est mis en colère contre eux, et Hachem lui a dit, ne te mets pas en colère contre eux, c'est pas contre toi qui se révolte, c'est contre moi. Donc effectivement, il voulait un roi pour être comme les autres. Un roi comme les autres. Et ils l'ont eu, et on sait ce que ça a donné. Et donc, il y a une première chose, donc il y a ce problème de la séparation ou non-séparation des pouvoirs. Je vous ai dit, le Bechor, le premier-né, il a un statut à part. En particulier, il reçoit dans l'héritage... Il reçoit une double part. Pourquoi est-ce qu'il a une double part ? Alors, une des explications, on peut la comprendre un peu de la manière suivante. Le mot qui veut dire Bechor est un mot qui s'écrit avec trois lettres, dont chacune d'entre elles veut dire deux. Le Bet veut dire deux dans les unités, Kaf dans les dizaines, et Resh dans les centaines. Alors, c'est un peu compliqué quelqu'un qui a le statut de premier. Il s'écrit 222. C'est compliqué, c'est une provocation. Mais pourquoi est-ce qu'il est deuxième ? Yitzhak Koutner rapporte, mais c'est pas lui, ça vient pas de lui. Je me souviens plus exactement où ça existe en premier, il explique que justement, le premier-né, il a un statut de deuxième père, parce que c'est lui qui est en charge de traduire l'enseignement du père dans le langage de la nouvelle génération. Il faut traduire, en tout cas, pour ensuite... Et donc, c'est son travail, et parce qu'il a ce double travail, comme tout le monde, plus le travail de s'occuper de traduire l'enseignement paternel dans un langage qui convienne à la nouvelle génération, pour qu'ils y comprennent quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il a cette fameuse double part. Alors, quand ils arrivent, en Eretz Israël, l'organisation est différente, mais c'est toujours une organisation tribale. Et après, il y a des choses un peu étonnantes, c'est qu'a priori, cette fameuse terre d'Israël, elle joue un rôle fondamental. Et puis la Torah nous dit qu'il y a deux tribus et demie, qui disent, ben, nous on a beaucoup de troupeaux, cette région-là, qui est la région, qui est une région avant le franchissement du Jourdain, elle est c'est une très bonne région de pâturage, etc. On voudrait bien s'installer là. Et à mon avis, j'ai toujours considéré que c'est un espèce de scandale. Hachem a accepté, Moshe a accepté, donc on a accepté, ils sont établis. Donc, et ça, c'était à la limite une porte ouverte pour les ennemis, pour envahir la terre d'Israël, parce qu'en passant par eux, qui étaient du mauvais côté, enfin de l'autre côté du Jourdain, mais qui avaient évidemment tous les ponts pour pouvoir communiquer avec leurs frères, bon, c'était facile d'entrer, et donc c'était assez désastreux. Et donc, quelque part, si on veut regarder, cette terre qui devait être partagée en 12 tribus, finalement, elle a été partagée en 10, enfin 9 et demi, 9 tribus et demi. Donc ça veut dire que personne n'était à sa place. En fait, la place de chaque tribu, elle lui a été attribuée en fonction des qualités spécifiques ou des défauts spécifiques de la tribu en question. Mais finalement, ce n'était pas fait pour ça, c'était fait pour 12 tribus. Donc finalement, on a cette situation où c'est presque comme si les Bnei Israël étaient d'emblée déjà en galoute, puisqu'ils ne sont pas à leur place. Alors après, on a plus ou moins récupéré ce qui était de l'autre côté du Jourdain, bon, ce n'est pas très clair. Alors, en fait, il y aura une certaine forme d'unité au moment de... avec Shaoul, avec David surtout, puis ensuite avec Shlomo, et puis après, c'est le désastre, comme vous savez tous, il y a un schisme, c'est-à-dire... que le royaume de Shlomo, qui est le royaume de David, est partagé en deux, mais pas du tout en deux parts égales, mais en deux parts complètement inégales. D'un côté, il y a pratiquement 10 tribus, et de l'autre côté, il y en a 2. Et c'est pas du tout l'héritier de Shlomo qui a la grande part. La grande part, c'est quelqu'un qui n'est même pas de la tribu royale. Donc, ça fait 2 royaumes, qui vont évoluer chacun de son côté, et souvent ils vont mal évoluer, et il va y avoir de temps en temps des bons rois, mais en règle générale, ça ne marche pas vraiment bien. Donc ce schisme-là, il est désastreux. Finalement, les 10 tribus sont exilées, et elles disparaissent de la circulation. On n'a plus de traces. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des représentants de chaque tribu, parce que qui pouvaient être là, qui faisaient du business au moment où Sanhérive c'est les Assyriens qui les ont exilés. Peut-être il y avait des gens, donc on peut imaginer qu'il y a des représentants encore dans le peuple juif de toutes les tribus, par ce biais-là, comme c'est un certain individu, enfin on ne sait rien en vérité. Et puis voilà, on s'est retrouvé avec un peuple juif qui... composé de 2 tribus. Et ces 2 tribus-là ça n'a pas marché vraiment bien. On a parlé beaucoup de... Il y a eu la destruction finalement, donc il y avait eu la destruction du premier temple. On a été 70 ans en exil en Babel, qui est devenue ensuite la Perse et les Médies, les Mèdes et le Perse. C'est l'histoire de la Megillat Esther à ce moment-là. Et on est à la moitié du deuxième temple. Les temples, en général, ils ont duré à peu près un peu plus que 400 ans. Et on est à la moitié, et il y a ce que tout le monde connaît, il y a Hanouka. C'est-à-dire, en fait, c'est commence l'exil, c'est l'époque de l'exil grec, et la révolte d'une famille qui se révolte et qui, ça fait une guerre civile, et qui réussit à chasser les Grecs en question, c'était les Syro-Grecs, il n'y a pas beaucoup de gens de Grèce probablement là-bas, c'était la civilisation grecque, et l'establishment juif était acquis complètement à cette civilisation grecque. Et donc les Hashmonaïm, les Yehuda Maccabi et ses frères, etc., finalement ils ont réussi à établir un royaume, une autorité juive, dont Rambam dit que c'est magnifique, ça dure 200 ans. On peut se demander comment le Rambam peut considérer que c'est magnifique, dans la mesure où ce qu'ils ont fait est interdit. Parce que justement, eux, cette famille, c'était des Kohanim. Et les Kohanim, ils ont pris sur eux d'être aussi rois. Et donc, ils ont cassé la séparation des pouvoirs. Ils ont pris les deux pouvoirs. Et bon, ça s'est mal tourné. Finalement, ils ont appelé il y a eu une dispute entre les frères, comme vous savez, probablement. Un des deux a appelé les Romains à la rescousse. Les Romains, ils sont arrivés, ils ont fait le ménage. Ultimement, on a détruit aussi le deuxième Beth Amikdash. Et on est entré dans ce qu'on appelle le Galout, qui est le Galout dans lequel, donc l'exil dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Et donc, quand on parle d'exil aujourd'hui, pratiquement, c'est de cet exil-là qu'on parle. Il y a eu d'autres exils avec d'autres conditions, mais cet exil-là, qui est le grand exil qui dure depuis très 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 longtemps. Et il y a encore un point que je voudrais souligner, c'est que l'ennemi du peuple juif, cet ennemi du peuple juif, en fait, c'est un peuple, il s'appelle Amalek. Amalek, c'est le grand méchant peuple. On a lu ce Shabbat, qu'effectivement, il y avait une mitzvah de se souvenir de tout ce qu'Amalek nous avait fait, qui nous a attaqués au début des pérégrinations d'Ebné Israël, dans leur cheminement d'Ebné Israël en sortir de l'Égypte. Il nous a attaqués pour rien du tout, pour le principe d'ailleurs, probablement. Et du coup, il est l'ennemi du peuple et l'ennemi d'Hachem jusqu'à la fin des temps. Alors, juste pour préciser, qui est ce Amalek? Alors, certains disent, voient Amalek comme un étranger, mais en fait, ce n'est pas un étranger. Amalek, c'est un petit cousin. L'histoire, c'est... Il y a cette rivalité entre Yaakov et son frère Esav. On nous parle d'une femme... s'appelle Timna. On ne sait rien d'elle. On sait seulement qu'elle est la sœur de Lotan, dont on ne sait rien non plus. Pas grand-chose. Donc, voilà. Cette femme-là, elle a voulu à toute force entrer dans la famille. Alors, elle a essayé d'entrer à l'époque d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Comment ça fait ? Ça ne marche pas. Personne n'a voulu d'elle. On ne comprend pas. Personne ne donne jamais d'explication sur la raison pour laquelle elle n'a pas été acceptée. Abraham, il acceptait tout le monde. Pourquoi elle n'a pas été acceptée? On n'en sait rien. En tout cas, j'en sais rien, j'ai jamais rien entendu là-dessus. On ne l'a pas acceptée. Alors finalement, elle a essayé la branche Esav. Esav non plus, il ne l'a pas acceptée. Il n'a pas accepté Timna pour son fils non plus. Il l'a acceptée seulement comme concubine. Il ne lui a pas donné un statut d'épouse. Donc elle est la concubine du fils aîné d'Ésav, c'est Timna. Et bien voilà, un jour, Monsieur Eliphaz, le fils d'Ésav, et Madame Timna annoncent la naissance de leur rejeton Amalek. Donc Amalek, c'est un petit cousin. Et cet Amalek, il est la pointe avancée d'Ésav. Si Ésav est l'ennemi de Yaakov, mais la pointe avancée, la plus avancée, c'est Amalek. Alors, Amalek, au départ, il est présenté comme un peuple. Maintenant, dans le Gaon de Vilna, dans ses écrits, il dit que de l'Amalek, il y en a aussi dans le peuple juif. Il considère que tous ceux qui sont des faiseurs de disputes et des gens qui transgressent régulièrement les interdits de la Lashon Hara, de dire du mal, ces gens-là sont Amalek. Donc Amalek, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Alors ce qu'on peut dire rapidement, c'est que Amalek, il se nourrit de la négativité d'Israël. C'est comme ça qu'il va avec Israël jusqu'à la fin des temps. Chaque fois que le clan Israël est négatif, que ce soit dans sa conduite extérieure, ou qu'à l'intérieur on développe la Shonara et Marloquette, comme on dit, ça veut dire les disputes inutiles, etc., ça renforce Amalek. Et donc Amalek, ce n'est pas quelqu'un qui nous attaque de l'extérieur. D'une certaine manière, c'est comme si nous nous attaquions nous-mêmes, en fait. C'est ça. Donc le véritable ennemi d'Israël, ce ne sont pas les autres, c'est une partie de nous-mêmes ou alors des gens très proches, quoi. C'est quand même Ésav, c'est quand même un cousin. Ésav, ça fait partie, c'est quand même quelqu'un dont on admet, par exemple, les descendants à la conversion dans le peuple juif. On l'a lu cette semaine aussi. D'accord. Édom, on l'accepte. C'est les deux seuls peuples qu'on n'accepte pas, qu'on n'accepte jamais la conversion, c'est Amon ou Moab, qui sont aussi des petits cousins, puisque ce sont les descendants des enfants que Lot a eus de façon incestueuse avec ses filles. Mais ces gens-là sont disqualifiés pour manque de générosité, un manque d'une générosité élémentaire. Ces gens-là, on ne peut pas les accepter. Donc on ne les acceptera pas. Mais c'est les seuls. Et ce problème-là de Moab, effectivement, c'est un problème qu'on connaît très bien parce que on ne peut pas accepter les descendants de Moab, mais il a été discuté et décidé par les rabbinim à l'époque de Boaz et de Ruth. On a accepté la conversion des femmes, mais pas la conversion des hommes, parce que ce sont les hommes qui étaient fautifs de ce manque de générosité, d'une générosité élémentaire. Et donc, du coup, on a accepté la conversion de Ruth. Et donc, toute la vie du roi David, qui est un descendant de Ruth, ses ennemis l'ont poursuivi en le traitant d'usurpateur, etc., parce qu'il ne méritait même pas, il n'est pas juif, donc il ne pouvait pas être roi. Donc, alarchiquement, bien sûr qu'il l'était, mais bon, il a eu des problèmes. Et donc, on a des problèmes essentiellement avec les gens qui sont très proches de nous, pas les gens qui sont vraiment extérieurs. Et donc, on n'a pas les mêmes relations avec ces peuples, avec ces gens-là, en théorie, qu'avec des gens complètement extérieurs. Et donc, la notion d'exil, c'est toujours une notion d'exil un peu compliquée. De facto, pour nous, l'exil, c'est l'exil d'Ésav, l'exil d'Édom, celui dans lequel nous sommes. Alors, on a vu dans les séances précédentes, on a vu éventuellement quels exemples, quelles leçons on pouvait tirer de l'attitude d'Ebné Israël à l'époque du deuxième exil à l'époque des Perses, d'Achashverosh, d'Esther. C'est pas dit du tout que les circonstances étaient des circonstances qui peuvent servir de modèle pour se conduire dans ce nouvel exil, l'exil d'Esav, qui est un exil beaucoup plus terrible, parce qu'en fait, c'est la somme de tous les exils. Et donc, avec la somme de tous les exils, la composante, ça fait des nouveaux problèmes qu'on n'a pas résolus, qu'on n'a jamais résolus jusque-là. On n'a pas résolu ces problèmes dans les exils précédents. Et donc, ce sont des problèmes qui sont là, devant nous, qu'il va falloir résoudre. Et visiblement, on n'a pas encore trouvé la solution. Alors, bien sûr, on dit toujours que le grand problème, c'était la haine gratuite. Donc, ça nécessite de savoir exactement qu'est-ce qui s'appelle une haine gratuite et comment on compense, comment on lutte contre cela, ce qui devrait nous permettre de retrouver une indépendance, de retrouver une situation, de sortir de l'exil en question. Voilà, c'est quelques points que je voulais donner, peut-être pour qu'il soit bien clair, comment nos maîtres, eux, traitaient le problème. Eux, essentiellement, les rapports avec l'extérieur, c'était des rapports où on essaye de, puisque c'est la seule chose qu'on peut faire, on essaye d'acheter, on essaye de corrompre, en fait, d'une certaine manière, des régimes en général très fortement corrompus, et donc qu'on peut continuer de corrompre, pour obtenir la suppression ou les aménagements aux décrets anti-juifs qu'ils prennent. C'était ça le problème. À part ça, ce qui est très intéressant, mais dont je ne sais pas si ça va intéresser effectivement les participants, il faudrait regarder comment on s'est organisé à l'intérieur de la société juive. Ça, on s'est interorganisé de toutes sortes de manières. Alors, chacun, et ça, c'est dans les pays, ça a été différent en fonction de la mentalité, de la religion, de l'époque, du fanatisme, etc. On n'avait pas la même organisation quand on était dans l'Espagne musulmane avant les fanatiques que dans les régimes chrétiens. Et pas la même organisation quand on est un pays musulman, si en fait avant les fanatiques, pendant les fanatiques, après les fanatiques. Voilà ce que je voulais dire rapidement pour pouvoir commencer à discuter sur ce qui est l'essentiel à mon avis, qui est de savoir où est-ce qu'on va dans ce séminaire.
Merci. Merci. Ouais, d'avoir donné des points de discussion. Alors, on va passer un peu